pour investir, la boîte à outils.
Bon, c'est un des grands rendez-vous de l'année, évidemment, déclarer ses impôts. On va vous préparer psychologiquement au truc. Alors ça y est, la fenêtre de tir est ouverte. Vous pouvez désormais déclarer vos impôts depuis quelques jours. On va déjà se préparer mentalement à tout ça avec Christian Fontaine. Alors, suivant votre profil d'investisseur, évidemment, c'est un enjeu différent à chaque fois. Maintenant, l'enjeu principal, quel que soit votre profil, c'est de rien laisser en route, de garder des munitions et surtout de rien perdre.
Alors, bien sûr. Alors, d'abord, il faut se remémorer quand même les dates, hein, les dates limites. Mm-hmm. Donc, vous avez, si vous habitez département 1 à 19 et les non-résidents jusqu'au 21 mai pour remplir vos devoirs fiscaux. Les départements 20 à 54, 28 mai et 55 à 976, 4 juin, 19 mai, si vous remplissez encore, mais il y a de moins en moins de gens, votre déclaration sur le papier. Donc, Antoine, vous l'avez dit, donc le service de déclaration en ligne est ouvert. Pas de panique. Et pour que tout se passe bien, premier conseil, je dirais d'abord commencer par retrouver votre numéro fiscal à 13 chiffres. Hein, il figure en haut à gauche de l'avis d'imposition que vous avez reçu en juillet et août dernier. Assurez-vous que vous avez toujours votre mot de passe. Pas de panique, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le renouveler. Alors, étape essentielle, souvent, vous savez, on se connecte à son compte et puis on se lance billet en tête pour remplir sa déclaration. L'élément essentiel, en fait, c'est la préparation. Il est absolument essentiel de rassembler tous les documents pour n'oublier aucun avantage fiscal. Alors, mini-liste, reçu de dons aux œuvres, bien sûr, c'est l'une des plus principales niches fiscales. Plusieurs millions de Français en profitent chaque année. Bulletin de salaire de décembre, ça va vous permettre, avec le net imposable en cumul annuel déjà pré-imprimé, bah, vous pouvez comme ça... le vérifier. Imprimé fiscal unique récapitulant vos opérations financières. Pas de panique là aussi. Certains établissements financiers, comme chaque année, sont en retard. Donc, tout le monde ne les a pas encore envoyés. Ils ne sont pas forcément encore disponibles dans votre espace personnel auprès de votre établissement financier préféré. Attestation CESU si vous avez employé en 2025 un ou plusieurs salariés à domicile. Voilà un tout petit peu pour le travail de base et les documents qu'il faut rassembler. Alors, ensuite, bien sûr, ce qu'il faut avoir en tête, c'est les nouveautés. Les nouveautés.
C'est évidemment ça. Alors, on avait fait une spéciale avec la nouvelle loi budgétaire, mais il y a évidemment un certain nombre de trucs qui vont rentrer en ligne de compte pour la déclaration de cette année.
Alors, bien sûr. Alors, je passe, je dirais, sur les évolutions mineures, entre guillemets, parce qu'elles ont déjà été beaucoup commentées, comme la hausse du barème de 0,9% ou la réduction d'impôt pour dons de 75% qui a été étendue au versement aux associations d'aide aux victimes de violences domestiques et à toutes les fondations agissant pour la sauvegarde du patrimoine. En fait, la vraie nouveauté 2026, elle était dans la loi de finances et elle est dans la loi de finances de la sécurité sociale, de financement de la sécurité sociale pour 2026. C'est la fameuse hausse de la CSG de 1,4 points sur les revenus du capital. Hein, donc, ce qui fait que la CSG passe de 9,2 à 18, à 10,6 et le taux global de prélèvements sociaux de 17,2 à 18,6. La mauvaise nouvelle, c'est que cette hausse s'impose rétroactivement à la plupart des revenus du patrimoine. Patrimoine encaissé en 2025. Les revenus fonciers sont exclus. En revanche, les loyers de meublés non professionnels 2025 vont subir la hausse de la CSG comme vos plus-values mobilières ou sur crypto empochées l'année dernière. Alors, je voudrais, sur les nouveautés, quand même terminer sur une note positive. Hein. Vous savez, dans le projet initial du gouvernement, il y avait la suppression de l'abattement de 10% sur les pensions de retraite. Et cet abattement aurait été transformé par un abattement forfaitaire de 2 000 euros. Donc, ça ne s'est pas passé. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les retraités qui nous écoutent. Voilà un petit peu pour les nouveautés.
Alors, du coup, on arbitre comment ? Est-ce qu'il y a des choses éventuellement à revoir en fonction de ça ? Et surtout, pour se préparer à faire une déclaration à la fois solide et en même temps qui va nous permettre de, voilà, pas trop non plus perdre de pouvoir d'épargne, on va dire.
Alors, bien sûr, il y a des décisions à prendre. Vous savez, sur le plan fiscal, il y a des décisions à prendre à deux moments clés de l'année. C'est au moment de la déclaration, en mai-juin, et puis avril-mai-juin, et puis à la fin de l'année, en décembre. Donc, contrairement à ce que pensent beaucoup de contribuables, au moment de remplir votre déclaration, vous avez des choix fiscaux à faire, et il faut faire les bons choix. Donc là, souvent, il faut sortir la calculette. Alors, si vous avez des enfants majeurs, vous pouvez vous poser, qui par exemple poursuivent leurs études, vous pouvez vous poser la question question de rattachement ou non à votre foyer fiscal. Si vous encaissez des revenus fonciers de montants relativement limités, est-ce que vous optez micro-foncier ou régime réel? Et puis, pour les salariés, frais réels ou abattement forfaitaire de 10%. Comme chaque année, puisqu'on est dans une mission de placement, et puis c'est le cœur de la matière du revenu aussi, pour nous, le principal piège de la déclaration, c'est toujours la case 2OP. Alors, cette case vous permet, en fait, de ne pas payer, d'échapper à la flat tax, en fait, à cet impôt forfaitaire. Vous savez, au sein des 31,4, il y a un impôt à 12,8, et vous pouvez opter pour l'impôt progressif si c'est plus intéressant pour vous. En gros, si vous êtes pas imposé, hein, ce qui concerne quand même la moitié des foyers fiscaux, ou si vous êtes imposé dans la tranche à 11%, ça peut être intéressant de calculer, de cocher cette case 2OP. Alors, tout ça vous paraît peut-être un tout petit peu complexe. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est en pratique, c'est très simple. Ouais. Vous ne cochez pas la case 2OP et vous voyez combien vous avez à payer. Ensuite, vous la cochez, vous remplissez les informations complémentaires, comme les abattements pour durée détention en cas de plus-value immobilière. Et puis, vous voyez combien vous avez à payer et vous, vous prenez l'option qui est le choix qui est le plus intéressant pour vous.
Oui, on peut faire un coup pour du beurre. C'est ça
et
qui est pratique.
Pas de panique. Ouais. Si jamais l'outil des impôts dit a priori de cocher la case de OP si c'est dans votre intérêt et que vous ne l'avez pas fait. Donc là, pas de panique. Alors, bon. Par contre, l'élément clé, c'est que l'administration fiscale n'est pas forcément informée de toutes les charges que vous pouvez déduire, en fait. Il y a, à part la CSG déductible, les autres charges, c'est à vous de les remplir. Donc, attention, pension alimentaire éventuellement versée en 2025 à un enfant dans le besoin non rattaché à votre foyer fiscal. Donc, vous pouvez déduire cette pension à hauteur de 6 855 €. Il faut le décider. Il faut surtout l'indiquer à l'administration fiscale sur votre déclaration de revenus. Prestation compensatoire versée à votre ex-conjoint en 2025 est déductible sans limite si le jugement de divorce prévoit une liquidation sous forme de retraite ou en capital sur une période supérieure à 12 mois suivant le prononcé du divorce. Vous voyez, c'est très précis, donc je regarde mes petites notes.
Oui.
Et puis ensuite, et là ça concerne des millions de Français, les sommes versées en 2025 sur un PER sont également déductibles. Mmh. Ces sommes, normalement, elles sont indiquées sur votre déclaration de revenus. Simplement, il y a un petit piège, c'est que elles sont indiquées dans une case et vous devez l'indiquer dans une autre pour profiter de l'avantage fiscal. Là aussi, il y a un pop-up. Si votre feuille est pré-remplie à ce niveau-là, mais que vous oubliez de reporter le dit montant que vous avez versé sur votre PER l'année dernière, il y a un pop-up qui vous avertit en vous disant, est-ce que vous êtes certain qu'il ne faut pas... Voilà.
Non, mais ça, c'est plutôt pas mal. Et il faut le souligner, c'est pas souvent, mais... Alors, en tout cas, quand on déclare en ligne, c'est quand même assez bien fait et il y a des rappels de partout pour essayer de voir si on n'a rien oublié.
C'est de mieux en mieux fait. Il n'empêche, ça reste quand même relativement un pince-somme. Si vous avez, entre guillemets, que votre pension, que votre salaire, ça va. Mais à partir du moment où il y a des charges, où il y a vous pouvez profiter de réductions, vous pouvez profiter de déductions, donc sur le plan fiscal, ça se complique un tout petit peu. Donc, il faut quand même s'y plonger. Je terminerai quand même par un regret, et ça, chaque année, c'est pareil. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de la revalorisation du barème fiscal à hauteur de 0,9%, c'est-à-dire l'inflation l'année dernière. Comme chaque année, il y a une myriade d'abattements et de seuils fiscaux qui, pour là, ne sont pas revalorisés. Et vous savez qu'au revenu, on accorde beaucoup d'importance à l'assurance vie, placement financier préféré des Français, plus de 2000 milliards d'euros, 75% du PIB, c'est énorme. Et bien, tous les abattements fiscaux, en tout cas la très grande majorité de ces abattements qui concernent l'assurance vie, notamment l'abattement de 152 500 euros, notamment l'abattement de 4 600 €, sont des abattements qui n'ont pas été revalorisés depuis près de 30 ans. Ça signifie qu'aujourd'hui, le seuil, la limite d'entrée dans l'impôt en termes réels a baissé de 50%. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a des millions de Français qui sont taxés sur des opérations patrimoniales sur lesquelles ils n'auraient pas été taxés il y a 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est bien dommage et c'est à dénoncer haut et fort sur votre antenne.
Et on le fait parce qu'il y a des tas de choses qui restent un petit peu dans l'escarcelle et... Quand on parle de réforme de l'impôt, ouais, il serait bien inspiré quand même même le gouvernement de regarder un petit peu de ce côté-là, parce que c'est aussi l'épargne qui fait vivre l'économie réelle. Merci beaucoup, Christian Fontaine, du magazine Le Revenu. À bientôt pour de nouveaux conseils, hein, toujours très concrets.